BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Avec Mathieu Détouche, toujours avec nous, Arkéa Asset Management. Bienvenue donc Mathieu. Dans un instant, on va regarder les gagnants et les perdants de cette séance. Mais vous le disiez, Antoine, c'est une séance un peu tristoune en attendant la fête ce soir. Le CAC 40 ne fait pas grand-chose cet après-midi.
Non, effectivement. Je reste quand même un peu pantois face aux déclarations de Jeff Bezos. On pourrait juste arrêter tout simplement de polluer, enfin polluer peut-être un petit peu moins, ou plutôt que d'aller embarquer la pollution et de l'amener ailleurs. Bon, bref. Le CAC 40, -0,12, 8437 points, et c'est l'industrie qui signe les plus fortes hausses. Legrand, +3,97, 144,20€. Schneider Electric, +2, 282,60€. Alors, bonne vieille valeur, oui. Maintenant, elles sont quand même plus ou moins liées aux nouvelles technologies, à l'électrification de la société, etc. Donc, bon. Vieille, mais pas tant que ça. Crédit Agricole, +1,6, 17,52€, et BNP Paribas, +1,22€, à 101,18€. Aujourd'hui, c'est vraiment le secteur bancaire qui semble sectoriellement vraiment faire tenir le coup au CAC 40. Société Générale, qui a signé quelques très très belles séances là, entre ce début de semaine et la semaine dernière, gagne encore 1% à 77,94€. Oula, l'automobile. Stellantis, -2,68 à 5,80. Renault, -1,65 à 27,36. Vous avez parlé de BMW. Et effectivement, il y a ce profit warning qui est absolument retentissant. Le marché a l'air de pas du tout décoller du côté des États-Unis et du côté de la Chine. Il y a eu aussi un article très inquiétant du côté de la presse économique anglo-saxonne ce matin concernant Volkswagen. Il paraît que du côté du directoire de Volkswagen, il y a une majorité d'intervenants qui sont en train de dire que le modèle industriel actuel de Volkswagen est menacé en tant que tel. Voilà. Donc, très forte pression autour du secteur auto et ça continue de se sentir. Mais de toute manière, depuis le début de la semaine, le secteur auto est quand même très mal orienté entre Stellantis, Renault et puis ces mauvaises nouvelles en série du côté de l'automobile.
Oui, BMW, donc gros profit warning. Alors, BMW le justifie, Mathieu, en disant oui, il y a le ralentissement en Chine et la guerre au Moyen-Orient. La question, c'est est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus fondamental sur le business de Volkswagen?
Alors, effectivement, je veux dire, il y a... l'activité chinoise, le marché fait moins 19, ils font moins 15, donc effectivement ça pèse. Le Moyen-Orient, ça va peser aussi, bah effectivement le prix de l'essence a augmenté, la confiance des consommateurs est pas au beau fixe, donc tout ça pèse sur la décision d'achat, évidemment. Mais après, structurellement, il y a rien de nouveau. Je veux dire, la concurrence chinoise, elle est toujours bien présente pour des acteurs premium comme BM, comme Mercedes, etc. qui ont une présence, il y a moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé en Chine, les acteurs chinois aujourd'hui qui faisaient des véhicules un petit peu moins qualitatifs, aujourd'hui ils ont rattrapé à leur retard, donc ils arrivent à offrir des produits d'une qualité semblable ou presque à des prix inférieurs, donc il y a cette menace chinoise qui reste là, et puis il y a la transition électrique qui coûte cher et qu'il faut financer par un moyen ou par un autre. Donc oui, l'industrie européenne elle est en difficulté.
Regardez par exemple les marges bénéficiaires de Volkswagen. Elles étaient en 2023 de 10%. Elles pourraient descendre cette année, nous dit Volkswagen, de 10% en 2023 à seulement 1%.
C'est un petit peu le... Enfin là, ils visaient entre 4 et 6 de marge d'EBIT. Le consensus était à 5 chez BMW. Ils ont révisé entre 1 et 3. Donc c'est un profit warning qui est énorme. Pareil sur le free cash flow, sur les volumes, etc. Enfin vraiment, c'est un profit warning à tous les étages. Ouais. Donc ils vont prendre certaines mesures. Et ils vont mettre en place un plan d'économie de coûts qui va compter aussi. D'ailleurs, qui compte aussi dans le profit warning. Hein, c'est un tiers du profit warning. Parce que les économies de coûts, il faut les financer. Ça compte au début. Donc ils vont prendre à bras-le-corps ces problématiques. Mais ça va rester compliqué.
Volkswagen perd à Francfort un peu plus de 7%. Vous le disiez, Antoine, tout le secteur auto est embarqué. Et parmi les raisons qu'invoque Volkswagen à ce profit warning, la guerre en Iran. C'est le premier groupe, depuis le début de cette guerre en Europe, à invoquer aussi directement les effets de la guerre en Iran pour justifier un profit warning. Cette guerre, elle a débuté en mars, donc à la fin du premier trimestre. Elle n'a pas eu d'impact réel sur les résultats des entreprises au premier trimestre, mais là, on va arriver bientôt sur les résultats du deuxième trimestre. Est-ce qu'il faut craindre, pour le coup, plus de profit warning?
Sur le secteur auto ou en général?
Non, en général.
En général. Alors oui, je pense qu'il y a certains acteurs qui vont être pénalisés. Je pense que tout ce qui est lié un petit peu à la consommation, qui est très lié, qui a besoin de chaînes logistiques qui fonctionnent bien, des choses comme ça, qui a besoin d'une certaine confiance dans l'avenir et dans l'économie. Donc je pense par exemple les valeurs de consommation classiques, le luxe aussi, qui a connu un rebond récemment assez technique, parce qu'on voit qu'on est quand même sur une détente au niveau géopolitique. Donc il y a pas mal d'acteurs qui étaient short de ce secteur-là, qui est revenu dessus. Mais aujourd'hui, c'est un secteur qui se paye, quand je regarde LVMH, c'est 20-22 fois les bénéfices, pour des croissances de, on va dire, 5-6%, c'est des boîtes qui n'ont pas le droit à l'erreur. Donc sur les sociétés de luxe un peu aspirationnelles, je mets peut-être de côté des Richemont ou des Hermès, là peut y avoir des risques. Après, il faut faire attention aussi à certaines industries très lourdes qui sont dépendantes du coût des intrants, donc de toutes les matières premières qui ont beaucoup monté. Certains acteurs de la chimie aussi sur lesquels il faudra être prudent. Je regardais ce matin des boîtes comme Accor, que j'aime bien, en l'occurrence Accor, mais elle est revenue un petit peu plus haut qu'avant la crise, alors qu'elle est exposée à 10%, qu'on voit bien que là, il reste encore des interrogations sur l'issue du conflit. Voilà, des airlines comme Wizz Air, qui a repris un petit peu de performance, alors qu'elle est très exposée au Moyen-Orient, qu'elle n'était pas du tout couverte sur la hausse du prix du jet fuel. Je ferai attention sur ces valeurs-là.
Priorité au direct, Mathieu, parce qu'il se passe toujours des choses sur les marchés. Et alors là, incroyable, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive. SpaceX recule. Oui, quatrième séance de cotation pour SpaceX. C'est une première historique depuis son apparition en bourse. SpaceX, pour la première fois, donc, recule cet après-midi de 2%.
Remboursé.
Après avoir pris CES 50% en 3 jours, moins 2%, ça fait tout
moins
bizarre.
4. Ouais. Moins 2,5.
Ouais. Rouge.
Ouais. Nul.
C'est la fin d'une histoire. On plaisante.
Mais je suis pas plus étonné que ça. Je veux dire, tout a été effectivement orchestré pour que ça monte. Ils ont émis que 5%. Enfin, c'est un tout petit flottant. Il y avait un appétit énorme. Aujourd'hui, c'est à peine un investissement. C'est presque un achat plaisir. On voit bien que après l'IPO, donc le taux de service, il a été très faible parce qu'évidemment, il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Le taux de service a été faible. Donc les gens qui n'ont pas eu à l'IPO, il y a beaucoup de comptes qui n'ont pas été servis lors de l'IPO, qui ont acheté les jours suivants. Et c'est pour ça qu'on a observé des hausses sur les 3-4 derniers jours. Mais après, quand on se raccroche aux fondamentaux, c'est une société qui se paye 100 fois le chiffre d'affaires. Alors après, Tesla, ça se paye 200 fois les bénéfices et ça fait longtemps que ça dure. Oui. Alors que le chiffre d'affaires stagne, que les résultats baissent. Donc Musk, il est capable de tout, on va dire. Mais on a du mal à comprendre les fondamentaux. Et le marché va s'y raccrocher à un moment ou à un autre.
Ah, vous croyez vraiment qu'il y aura un retour aux fondamentaux en termes de valorisation, ouais.
Ouais,
malgré les ETF qui répliquent sans se soucier de la valorisation, malgré
ces ETF. Les ETF, je crois qu'il y a le MSCI qui a déjà intégré ou c'est imminent. Il va y avoir le Nasdaq, le S&P, ça va prendre plus de temps parce qu'ils ont des critères. Je crois qu'il faut que ça fasse 10% de flottant, 12 mois de cotation, des bénéfices, ce qui n'est pas encore le cas. Alors Starlink, c'est bénéficiaire, c'est la vache à lait un petit peu de la valeur. Il faut financer justement le développement de la fusée Starship. Il faut financer xAI aussi, qui est en perte et qu'ils ont intégré dans SpaceX. Voilà, il y a un moment donné, on ne paye pas 100 fois le chiffre d'affaires à une société qui, pour l'instant, n'est pas bénéficiaire. Donc ça viendra. Sans aucun doute, mais je vois circuler des chiffres qui, moi, me paraissent un petit peu gros.
Oui. Lundi, c'est Boulébert 13 qu'on suit souvent sur les réseaux qui a repéré que lundi, 73% des actions achetées par les particuliers américains, 73%, c'était SpaceX.
Le marché était concentré.
Ouais. Oui. Il est fort et c'est peut-être bien la stat de la semaine, franchement.
C'est énorme, 73% des valeurs qu'achetaient les particuliers américains lundi, 73%, c'était en fait une seule valeur, c'était SpaceX.
Le marché ne regarde pas les risques. Les risques de régulation, les risques d'un accident technologique ou industriel. Il peut y avoir énormément de risques aussi sur la valeur.
Antoine.
Les deux intervenants là, que j'avais ce matin dans Tout pour Investir et qui étaient vraiment disaires et qui ont observé, et certains même y étant exposés, disaient une fois qu'on y est, il faut assumer d'être à 100%. Mais 100%, voire même 110%, dans le domaine de la pure spéculation. Ça ne peut plus rien dire du côté des modélisations qu'on avait avant sur valoriser le risque, valoriser les performances futures, etc. Ça ne veut plus rien dire.
Mais est-ce qu'on disait pas la même chose,
c'est de la spéculation.
Ouais, mais est-ce qu'on disait pas la même chose il y a 4 ans sur Nvidia? Et puis aujourd'hui, finalement, la valorisation s'est un peu alignée sur les fondamentaux, ou les fondamentaux sur la valo, on ne sait plus. Mais
Nvidia toujours.
Il y a 4 ans, on se demandait beaucoup de choses.
Oui, mais Nvidia a toujours fabriqué des vraies choses. Pour l'instant, SpaceX fabrique. 20% de fusées, de satellites, de d'IA, etc. Et fabrique tout le reste qui n'existe pas encore.
Les data centers dans l'espace, on les attend, etc.
Pas beaucoup de promesses aujourd'hui.
Après, il dit que ce sera facile à faire. Le doute fait avancer.
Souvent à faire ce qu'il fait, mais ça prend plus de temps que prévu.
Cela dit, oui, il disait faire réatterrir des fusées, ce sera facile à faire. Il l'a fait.
Oui, et il le fait souvent même maintenant.
C'est toujours aussi fascinant.
Vous restez avec nous au fil rouge, Mathieu, si ça vous dit. On vous retrouvera à la clôture des marchés de tout à l'heure à 17h35. Vous avez le temps d'aller boire un verre d'eau, d'ici là, bien sûr, ou deux.